Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Hello, bienvenue dans En attendant que le monde change. C'est vendredi 17 avril, dernière émission de la semaine. Alors vous savez quoi, j'ai envie de faire une dinguerie, parce que je suis un garçon pas très raisonnable. J'ai envie de vous présenter l'émission tout en anglais, parce qu'il faut qu'on s'internationalise. On a des grandes ambitions pour cette émission sur Campus, donc on essaye de la vendre à des Américains, et on va leur démontrer qu'on est entièrement polyglotte. Donc à partir de maintenant, c'est en anglais. Donc si vous n'avez pas le niveau, essayez Google Translation, je ne sais pas si ça marche. Moi, je ne suis pas sûr de l'avoir, mais je vais tenter. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hello, hello, welcome. This is Waiting for the World to Change with Jean-Pierre, aka It's Me. Every day, from Monday to Wednesday, we try to make you laugh, to give you advices, tips, and make bad jokes. Bad jokes, we are the king of the bad jokes. I am the guy who is in charge of the emission, the boss, I'm the boss. Little boss, because I have another boss, which is Philip. He's the muscle man, the guy with the muscles, and the half muscle man, half geek. And he is also animating the emission. So let's start today with what? With myself, because I'm a little bit egomaniac. I'm going to speak about holiday movies, because we don't know if we are going to have some holidays in summer. Maybe not. Perhaps, we don't know. And after, we're gonna have news from the world without talking about the corona. It's Sophie and the students from the L'École de Journalisme, excuse my French, de Tours. And the chronic is called À part le corona, il se passe quoi? I speak a very good French. So now it's go. Very good French I speak. No, it's let's go now.
Bienvenue sur Inshallah Airlines. Notre température sera de 35 degrés à notre arrivée à Pattaya.
Bienvenue à Pattaya, mon frère.
Ici, c'est le paradis des Kairas.
Comment savoir si une meuf elle a une teub? Tu prends un ballon, tu le jettes à il ou elle, tu vois. Et la personne se dit, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire elle a une teub.
Le premier film dont j'ai choisi de vous parler, c'est Pattaya, film de vacances. Hein. Pourquoi j'ai choisi d'ailleurs de vous parler de film de vacances? Bah parce que les vacances, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir les prendre. Et si jamais on va pouvoir les prendre, dans quelles conditions on va pouvoir les prendre. Donc Pattaya, écrit et réalisé par Franck Gastambide, des Kairas, qui avait d'ailleurs signé un premier film en 2012 qui s'appelait Les Kairas. Donc c'est quoi Pattaya? C'est l'histoire de Frankie et Crimo. Frankie, interprété par Franck Gastambide lui-même, et Crimo par Malik Bentala. Deux petits racailles qui rêvent de partir en vacances, où ça? Bah à Pattaya, hein, où tout leur serait accessible, les filles, les boîtes de nuit, les fêtes, le kiff. Pour ce faire, ils ont la brillante idée d'entraîner Karim, un nain de leur quartier, dans un périple dont le seul but est d'affronter le champion de boxe thaï des nains. C'est la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier du voyage et de l'hébergement gratuit à Pattaya. Karim, qui est joué par Anunnar Tubali, le petit des Kairas, n'est bien entendu pas informé de ce qu'il attend, même s'il trouve un peu suspect l'intérêt que lui portent les deux Gugus. Donc il accepte cependant, dans l'espoir de se faire enfin apprécier et respecter dans son quartier. Alors, on a un film avec un sujet plutôt cocasse, un humour hyper pipi caca. Je pense que ceux qui l'ont vu le savent et voient à quelle scène je fais référence. Mais il n'y a pas que ça dans ce film-là. Hein. C'est pas des gags toutes les secondes, des punchlines à toutes les minutes, on est loin de tout ça. Il y a un vrai effort d'écriture quand même derrière afin de limiter l'accumulation ou l'excès qui aurait pu être nuisible au film. Il y a donc une vraie histoire qui tient la route et ce n'était pas gagné au départ. Les personnages sont assez drôles, assez bien interprétés, les acteurs sont tous assez naturels, assez bons. Ramzi Bedia notamment est parfait. Le seul petit bémol, je dirais, c'est Gad Elmaleh. Alors il faut savoir que Gad Elmaleh s'est rajouté au casting initial, c'est lui qui a demandé à faire partie du film. Bon, quand Gad Elmaleh demande à participer à un film, généralement ça se refuse pas, surtout pour Franck Gastambide, c'était l'occasion d'avoir une visibilité un peu plus forte. Il a demandé d'ailleurs à réécrire le rôle, du coup bah, il a grossi son personnage, ça fait un personnage un peu too much par moment, ça fonctionne pas toujours, donc voilà. C'est peut-être le seul petit bémol du film. Un film au budget modeste, hein, 7 millions d'euros, je crois, et qui en a rapporté plus du double, donc c'est une belle réussite commerciale. Et le film est plutôt assez bien réalisé. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais ils sont bien utilisés, je trouve. Il y a plein de références, en plus, moi, qui me font hurler de rire. Enfin, c'est complètement mon univers de référence, hein, notamment des clins d'œil évidents. Bon, évidemment, à Vin Diesel et à l'univers Fast and Furious, mais pas que, à Kickboxer. Hein. C'est vraiment une grosse référence. À plein de moments, on pense au film de Jean-Claude Van Damme. Donc, Pattaya reste dans un registre très premier degré. Moi, j'adore cet humour-là, donc ça fonctionne très bien. Mais ça se laisse aussi regarder par d'autres personnes, même pour les non-adeptes. Il y a possibilité de prendre du plaisir à voir ce film. Donc moi, j'ai adoré. En plus, c'est une vraie petite Madeleine de Proust, ce film, pour moi, parce que film que j'ai vu avec mes deux loustiques adolescents. Et on s'était vraiment poilé beaucoup, beaucoup. Je l'ai revu d'ailleurs deux ou trois fois, et à chaque fois, ça fonctionne. Je l'ai d'ailleurs même revu pour en parler.
Vous pensez que Charlie pouvait te péder?
Péder?
C'est qu'en le voyant avec Martin, j'ai eu comme une illumination.
Enfin, Charlie fait du foot.
Sur la plage ensommeillée. Je vois bien que la sexualité des enfants de chiffon.
Crustacé. Allez, laisse-nous, toi, va prendre une douche froide, ça fera du bien ce que t'as. T'arrives.
Hé, détends-toi. Il fait beau, cette maison est sublime. Charlie est homo, où est le problème?
Une petite partie de jambes en l'air.
Par la plage aux crustacés.
D'accord, mais alors vite fait. Je veux pas exploser mon forfait.
Par la plage aux crustacés.
Alors, le deuxième film de vacances, j'ai volontairement choisi un film qui est l'antithèse de Pattaya, qui s'appelle Crustacés et coquillages, un film qui date de 2005, réalisé par le duo Olivier Ducastel-Jacques Martineau, hein, qui sont d'ailleurs un couple dans la vraie vie, à qui on doit notamment un film, leur premier film que j'adore, moi, qui s'appelle Jeanne et le garçon formidable, qui date de 96, je crois. Au casting de ce beau film, on retrouve Valeria Bruni-Tedeschi, Gilbert Melki et Jean-Marc Barr, pour parler des plus acteurs les plus connus, un trio qui est merveilleux dans le film. Donc, le synopsis, à la faveur de vacances d'été, dans une sympathique villa de la Côte d'Azur, une petite famille se laisse aller à un tourbillon de désirs et de quiproquos, et ça donne aux joies du questionnement ou de la pratique d'une sexualité libérée de toute culpabilité. C'est une fantaisie un peu décomplexée, modeste, mais c'est plutôt réussi. Hein. Le film sent parfaitement l'atmosphère décontractée des vacances à la plage, entre énergie et nonchalance, soleil, cigale, mistral, un décor idéal pour un vaudeville où l'on apprend à parler du sexe comme de la pluie, du beau temps et des fruits de mer sans jamais verser dans la crudité ou la vulgarité. Ce qui caractérise ce film, c'est la liberté de ton, le chaos dans la bonne humeur, des numéros chantés et dansés parfois un petit peu brouillons, des chorégraphies un peu maladroites, fofolles, une belle lumière, moi j'ai beaucoup apprécié cette lumière-là, qui donne au film un aspect très frais, très coloré et un tout petit peu sensuel. Donc on a là un méli-mélo très gai, servi notamment par un Gilbert Melki, une Valeria Bruno Tedeschi incroyablement drôle et un Jean-Marc Barr fort surprenant. Crustacés et coquillages suscitent une euphorie dont nous avons bien besoin en ce moment.
Allez, allez, mes chéris, vous allez rater le quart pour le corps.
Bon sang, regardez toutes ces jeunes nymphes, les gars. Ils doivent avoir aucun poil et la police. Moi, j'avoue que ça me donne des idées.
Ah oui, à l'âge qu'elles ont, elles savent sans doute rien de ce que tu as à l'esprit.
Arrête-moi ça, Ben. Tu saurais qu'elles sont jamais trop jeunes.
Dis, comment ça se fait que tu t'es jamais douché avec nous? Hein?
Bordel de merde, on peut même plus chier tranquille ici.
Ne laisse sortir personne de ton dortoir.
Tu sais que Paul et Ricky ne sont pas revenus encore?
On ferait mieux de les chercher maintenant.
Bon, alors tout le monde par deux et fouillez partout, jusque dans les chambrées qui sont vides.
Je prends ma torche et on va chercher en bas.
Mais c'est un garçon, mon Dieu.
La bande-annonce vous fait rêver. Hein. Donc là, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Massacre au camp d'été, sorti à la fin de l'année 1983. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, ça m'avait fait hurler de rire, ce qui n'était pas le propos du film, hein, puisque le film est au départ un film d'épouvante, d'horreur, signé Robert Ilzik. Je crois que c'est son coup d'éclat, on peut dire. Donc un tout petit slasher avec 350 000 euros au budget, des acteurs complètement inconnus qui font une carrière ou pas, pour la plupart, mais ils font une carrière un peu dans les films d'horreur de 3 ou 4e zone. Donc, le synopsis. Victime d'un terrible accident de bateau, Angela, seule survivante, est devenue orpheline. Elle est placée donc chez sa tante. Elle passe un été dans un camp de vacances avec son cousin. Et tous ceux qui vont la maltraiter vont avoir des accidents mortels. Donc on a un slasher ici inspiré. Donc je vous l'ai déjà dit que c'était un slasher de Vendredi 13 à prendre au millième degré, car techniquement, c'est vraiment très mauvais. Hein. Mais ça fait rire. Et bon, après, je ne l'ai pas regardé en entier parce que voilà. Mais honnêtement, si vous voulez passer 1h25 à vous poêler, ça peut être pas mal. La version française est pire que la version anglaise, donc si jamais vous pouvez tomber dessus, je crois qu'elle est dispo hein, sur YouTube. Une mise en scène totalement nulle, elle crée aucune tension. C'est un nanar de premier niveau, hein, notamment les attaques et les meurtres qui brillent par leur ridicule. Donc j'ai pouffé de rire à chaque tentative de meurtre. On a un cuisinier tellement empoté qu'il n'arrive pas à échapper à une marmite, des jeunes qui lèvent les bras comme Frankenstein quand ils se font attaquer, des incohérences dans beaucoup beaucoup de scènes. Alors certes, c'est original, on a une fin, puisque j'étais revenu pour la fin, qui est absolument incroyable. Mais c'est vrai que c'est complètement raté, c'est pour rire. Et comme je vous l'ai dit, c'est dispo sur YouTube en VF. C'est la petite cerise sur le gâteau, si vous voulez vous finir. C'est pas mal. Après, si vous voulez enchaîner, parce que le pire, c'est qu'il y a eu 3 suites, je crois. Non, c'est pas une blague, il y a eu 3 suites. Massacre au camp d'été, un programme de fou.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
Coronavirus.
Covid-19.
Du virus.
Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Comment la pandémie a pu toucher plus de 200 000 personnes
pour survivre plusieurs heures en dehors du corps
retarder
humain.
Retarder la propagation du virus.
Toujours pour éviter la propagation du virus.
De l'épidémie.
Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
Bonjour à tous, auditeurs confinés ou travailleurs courageux. Nous sommes le jeudi 16 avril, bienvenue dans l'émission « À part le corona, il se passe quoi ?» Le Flash Info fait en confinement, qui parle de tout, sauf du fameux virus, fruit de l'union entre un pangolin et une chauve-souris, enfin c'est ce que j'ai lu sur internet. Deux fois par semaine, nous vous préparons un petit tour de l'actualité détoxifiée, car oui, même si le Covid-19 est partout, la vie continue et surprise, il se passe quand même pas mal de choses. Alors en attendant le 11 mai, on vous propose un petit tour du monde en notre compagnie en quelques minutes. Ce Flash Info fait maison est bricolé par Sophie, Lucas, Solène, Caroline et Manon, désormais journalistes depuis leur canapé et étudiants à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Les grands titres du journal.
Aujourd'hui, on commence par une actualité internationale plutôt chargée.
En Libye, l'armée régulière gagne du terrain sur celle du maréchal Haftar. Pas de répit pour la guerre civile libyenne où la trêve coronavirus n'est pas respectée. Le 14 avril, l'armée libyenne, reconnue par l'ONU et soutenue militairement par la Turquie, a repris au maréchal Haftar les villes de Sorman et Sabrata, situées à 60 km seulement de Tripoli. Le militaire de 76 ans et son armée nationale libyenne s'éloignent donc encore un peu plus de la possibilité de s'emparer de la capitale, but de l'offensive lancée en avril 2019. Nouvelle salve de missiles en Corée du Nord. Le 14 avril, Pyongyang a tiré des missiles de croisière de courte portée en direction de la mer, contournant ainsi les résolutions de l'ONU qui proscrivent les missiles balistiques. Avec 9 tirs signalés rien que sur le mois de mars, le régime de Kim Jong-un montre qu'il n'abandonne pas son développement militaire, même en temps de pandémie.
Le mardi 14 avril, un énorme feu de forêt brûlait à moins d'1,5 km de la centrale de Tchernobyl, selon Greenpeace. Les flammes se rapprochaient dangereusement des réacteurs nucléaires, enfermés sous un sarcophage de béton depuis la catastrophe de 1986. L'incendie a démarré le 4 avril. Entraîné par des vents violents, il a brûlé 20 000 hectares de forêt. L'Ukraine a mobilisé près de 400 pompiers et des hélicoptères bombardiers d'eau. Les autorités assuraient mardi avoir maîtrisé l'incendie qui avait été déclenché par un jeune homme qui brûlait de l'herbe sèche pour s'amuser. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur une hausse soudaine de la radioactivité. Après le début de l'incendie, le chef de l'inspection écologique du gouvernement ukrainien a effectivement indiqué des niveaux de radiation 16 fois supérieurs à la normale dans l'épicentre de l'incendie. Il est ensuite revenu sur ses propos. « Le taux de radiation à Kiev et dans sa région ne dépasse pas le niveau naturel », a-t-il assuré dans un communiqué ce mardi matin.
Aux États-Unis, mardi 14 avril, Barack Obama a officiellement apporté son soutien à Joe Biden pour battre Donald Trump dans les urnes le 3 novembre. Dans une vidéo de 12 minutes, il estime notamment que le candidat démocrate à la Maison-Blanche possède toutes les qualités dont l'Amérique a besoin chez un président en ce moment. Barack Obama s'est par ailleurs appuyé sur le travail de vice-président de Joe Biden lorsqu'il était en charge du pays. Il a notamment rappelé la signature du Recovery Act, le grand plan de relance économique qui a été mis en place en 2009 suite à la grande crise financière de 2007-2008. Mercredi 15 avril, c'était au tour de la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, d'afficher son soutien à Biden. Ce dernier ralliement, après celui de Bernie Sanders lundi et Barack Obama mardi, vient confirmer l'image d'unité que semble afficher le Parti démocrate face à Trump et à la menace qu'il représente pour le monde. Toujours aux États-Unis, des tornades qui ont parcouru une zone allant du Texas à la Caroline du Sud ont fait au moins 32 morts. Tandis que les États du Mississippi et de la Louisiane ont décrété l'état d'urgence, la Géorgie, le Tennessee, l'Arkansas et la Caroline du Nord ont également été durement touchés par ces tempêtes. Le locataire de la Maison Blanche a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes. En Haïti, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril, un incendie a ravagé la chapelle de Milo. Le monument situé dans le parc historique de la citadelle La Ferrière, au sud de Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, faisait partie des plus anciennes églises d'Haïti. Elle était d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Patrick Durandis, directeur de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, a raconté qu'il avait attendu les pompiers qui n'ont malheureusement pas pu intervenir.
Enfin, ne l'oublions pas, chaque jour, de nombreuses femmes sont victimes de violences en France. Nous sommes le 16 avril 2020. Selon le collectif Nous Toutes, 27 féminicides ont été commis depuis le 1er janvier. Et pour finir, voici la rubrique Loisirs et culture.
La Turquie menace d'interdire une série avec un personnage homosexuel. Comédie dramatique pour adolescents, la série turque Love 101 va sortir sur Netflix le 24 avril. Mais peut-être pas en Turquie, où elle a été très critiquée par la presse pro-gouvernementale et homophobe. Le quotidien conservateur Takvim a ainsi désigné Netflix comme « nid de perversion » et le journal Yeni Akit accuse même la série Love 101 de « propagande homosexuelle ». Face à ces réactions, le Conseil de la radio et télévision turque a annoncé ne pas vouloir diffuser, je cite, « un contenu qui indispose la société ». Netflix n'a pour l'instant pas répondu directement, déclarant juste dans un tweet que de nombreuses fake news circulent au sujet de la série.
Le confinement se poursuit et les initiatives sur Internet aussi. Les influenceurs d'Instagram, créateurs de YouTube et personnalités sur Twitter redoublent d'inventivité pour nous divertir et se divertir elles-mêmes. Sur YouTube, plusieurs initiatives qui encouragent la création ont été lancées, à commencer par la deuxième édition de « Tu vas faire un film » du vidéaste cinéphile In the Panda. Le concept, un concours de court-métrage de moins de 5 minutes qui doit être filmé avec un smartphone et écrit, réalisé et monté depuis chez soi. Tout cela en moins d'une semaine. La deadline, c'est samedi 18 avril à 17h. Toutes les contraintes sont sur sa chaîne YouTube. L'année dernière, il affirmait avoir reçu près de 500 courts-métrages de ses abonnés. Autre défi créatif, ceux lancés par le comédien et auteur Kian Kojandi, autrement connu comme étant le mec de Bref sur Canal+. S'inspirant d'un concept américain, Kian lance toutes les semaines un défi créatif à réaliser depuis chez soi. Faites-en une vidéo de moins de 20 secondes, puis postez-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag Hometasking et il désignera un gagnant. Après le défi « Ranger un truc, mais avec style », cette semaine, il faut « Voyager chez soi, mais avec style ». Alors, à vos caméras et surtout, soyez créatifs. Au Mexique, un livre féministe et contre le sexisme rencontre un vif succès dans un contexte de manifestation contre les féminicides et les violences sexistes. Machismos Cotidianos, ou Machismo Quotidien, est un livre qui rassemble 98 situations auxquelles les femmes sont confrontées presque quotidiennement, comme des remarques sur leurs habits, leurs comportements ou des injonctions à la féminité. Les textes sont accompagnés d'illustrations épurées et impersonnelles à portée universelle. L'objectif est avant tout d'être pédagogique. Le livre est là pour dénoncer la banalisation du sexisme de tous les jours.
À part le corona, il se passe quoi ? C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis et les dimanches sur Radio Campus Tours, Radio Prune, et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur SoundCloud. À bientôt, prenez soin de vous, et surtout, restez chez vous.
Hey, I'm back, so I have to correct some mistakes I made. First of all, the show is every day from Monday to Friday. And today we are Friday, so it's the last show of the week. It's not an émission, comme, like I say, but a show. And we don't broadcast chroniques, but we broadcast reviews. So let's now the music do the talking with a French artist, very well known in France, called Patrick Sébastien, with his hit single, I think, it's called Le Petit Bonhomme en Mousse. Let's go for Patrick.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur. Je chéris ton cœur, adoré. Dans un coin d'architecture manqué, un méandre de la cité. Allons bon, cachant ta main raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Chéris ton cœur, adoré. Contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu. Songeant au sommeil mathématique des grues, je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, oh adoré.
Hey, I'm back. So I made a mistake. It was not Patrick Sébastien, but I think his half-brother called Bertrand Belin. So let's go back to the movies with Susan, who is going to talk about a movie once more, a movie by John Waters. Okay, so it's now time for the movies, and I come after that to say goodbye to you.
Sorti en 1990 et réalisé par John Waters, baptisé le pape du trash, Cry Baby est la comédie musicale qui a notamment révélé l'un des bad boys les plus acclamés d'Hollywood, Johnny Depp. Il s'inscrit dans une filmographie underground mélangeant les genres, humains comme artistiques, dont les titres emblématiques vous parleront sans doute. Pink Flamingos et Female Trouble, qui ont révélé l'actrice et drag queen Divine, ou encore Hairspray, comédie musicale au succès surpassant de loin le volume capillaire de son héroïne. Mais Cry Baby reprend une histoire vieille comme le monde. Deux gangs que tout oppose, rang social, niveau de vie, état d'esprit, look, s'affrontent à coups de défis automobiles et de qui aura les plus grosses et saura séduire la donzelle en détresse. En somme, c'est un Grease à la Waters. D'un côté les pantalons moulants, rebelles, passionnés et éternels incompris dont la plus grande force est d'assumer leurs différences. De l'autre, les coincés qui n'ont de cesse de s'enfermer dans des codes sociaux obsolètes en rejetant les outsiders comme des pestiférés, parfois avec violence. En mettant au cœur de son film cette bande de jeunes que tout oppose et les liens qu'ils finissent par tisser non sans mal, John Waters s'attaque à un des thèmes emblématiques du cinéma musical. Dans la lignée de West Side Story, de Grease ou bien plus récemment de High School Musical, Glee ou encore Pitch Perfect, il est ainsi question d'une génération dont l'insouciance et la liberté sont bridées. Formatés à appartenir à tel ou tel groupe, victimes des brimades de leurs parents, de leurs professeurs ou de leurs congénères, l'avenir tout tracé en fonction de leur niveau social, ces jeunes, qu'ils soient pantalons, moulants ou coincés, n'aspirent qu'à une seule chose, être eux-mêmes et s'amuser. Et quoi de mieux pour allier tout ce beau monde que l'amour ? Parce que oui, même s'il s'agit d'une œuvre bien plus profonde qu'High School Musical, plus engagée que Grease ou plus punchy que West Side Story, il est une chose qui ne change pas, l'amour gagne toujours. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, yadadadadadadadada, shaboom, shaboom, yadadadadadada. En bref, avec Cry Baby, John Waters s'est créé un véritable terrain de jeu à la gloire d'une jeunesse rebelle retrouvée. Les coincés deviennent de jeunes et faibles gominés, mais vides d'intérêt, tandis que les pantalons moulants apparaissent comme de véritables héros, aussi grotesques qu'attachants. Bien évidemment, le surjeu est de mise. Je retiens notamment Johnny Depp, aussi risible qu'émouvant, un Iggy Pop survolté et une Kim Maguire au visage mémorable. Mais ce surjeu est volontaire et même nécessaire à l'onirisme cynique de cette comédie musicale. Car même dans vos rêves les plus déjantés, vous n'imagineriez pas qu'un rat puisse vous guider vers la case prison. Petit fun fact, désolé de briser d'avance votre cœur, mais oui, Johnny Depp fait bien du playback. Et promis, on n'y voit que du feu. Pour résumer, Cry Baby est un essentiel du genre, pépite de folie et d'euphorie. À découvrir ou redécouvrir pour la façon dont il déconstruit les genres et s'en amuse avec brio. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao!
This is the end, my friends, so I hope you enjoyed the show. I hope you will stay at home, enjoy your weekend. We will be back next Monday with Philippe, aka the French lover. For my part, I will be back on Tuesday. Until then, stay safe, take care, bye bye.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.